Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Jacques, vous évoquez ce matin l'âge d'or des intellectuels à l'occasion de la publication d'un ouvrage de François Dosse chez Gallimard. Ouvrage intitulé « La saga des intellectuels français 1944-1989 ». Et l'auteur y présente, Jacques, les grands courants de pensée dans leur relation au cours de l'histoire.
Et oui Clara, car c'est l'histoire qui travaille de bout en bout cette saga dont les dates qu'il aborde, vous l'avez dit, 1944-1989, indiquent assez son impact sur les mouvements intellectuels français à l'apogée de leur influence. Comme le résume François Dosse, un immense contraste s'y révèle. D'un côté, le sentiment d'être porté par le souffle de l'histoire dans le climat de sortie de la barbarie nazie. De l'autre, l'impression d'affaissement de l'expérience historique ressentie au moment de l'effondrement du communisme avec la chute du mur de Berlin. Dans l'intervalle, c'est la croyance même dans le cours de l'histoire, censée porter l'advenue d'un monde meilleur, qui s'est trouvée ébranlée. Et cela n'est pas sans conséquence sur l'évolution des courants intellectuels et sur la conception elle-même du rôle de l'intellectuel qui passe d'une posture prophétique à une position plus lucide et désenchantée peut-être, mais finalement plus active dans le monde social. Celle par exemple de l'intellectuel spécifique incarné par Foucault qui intervient plus qu'il ne surplombe, comme lors de sa mobilisation sur la condition carcérale qui aboutit à la publication de « Surveiller et punir ». Reste que cette évolution, voire cette volte-face impulsée par une crise de l'historicité, perpétue sous une autre forme l'exception française que constitue de longue date l'influence des intellectuels, illustrée notamment par Voltaire, Hugo ou Zola. L'intellectuel, cette figure indissociable de l'histoire de France, résume Jacques Julliard dans le Figaro Vox, à la lecture de l'ouvrage de François Dosse. Et pour expliquer ce caractère consubstantiel, il revient à Tocqueville, un chapitre célèbre de l'Ancien Régime et la Révolution, au titre éloquent, comment, vers le milieu du XVIIIe siècle, les hommes de lettres devinrent les principaux hommes politiques de leur temps et des effets qui en résultèrent. C'est parce que la monarchie française les a tenus à l'écart des affaires que les gens de lettres auraient investi le domaine des idées politiques, d'où la connivence avec le peuple, lui-même écarté de la vie politique, et que Tocqueville décrit ainsi. Il n'y eut pas de contribuable lésé par l'inégale répartition des taille qui ne s'échauffa à l'idée que tous les hommes doivent être égaux, pas de petits propriétaires dévastés par les lapins du gentilhomme son voisin, qui ne se plut à entendre dire que tous les privilèges indistinctement étaient condamnés par la raison. Chaque passion politique se déguisa ainsi en philosophie, la vie politique fut violemment refoulée dans la littérature et les écrivains prenant en main la direction de l'opinion se trouvèrent un moment tenir la place que les chefs de parti occupent d'ordinaire dans les pays libres. À l'époque étudiée par François Dosse, ce sont aussi les revues qui ont relayé les idées, comme il le souligne dans l'entretien accordé à Nicolas Dutemps pour l'Humanité. Pierre Nora a dit un jour que la vie intellectuelle sans revue ressemblerait à un encéphalogramme plat. De gauche comme de droite, elles sont le vrai cœur qui bat dans cette saga des intellectuels, ajoute-t-il. Au cours de toute cette période, elles auront aussi constitué une sorte d'annexe vibrante de créativité opposée à l'académisme universitaire. Le succès du structuralisme doit beaucoup à cette efflorescence de revues qui ont permis au paradigme de s'imposer puis de s'institutionnaliser, comme cela a été le cas au Centre expérimental de Vincennes à l'automne 1968. Mai 68, justement, ouvre le deuxième volume de la saga des intellectuels, sous-titré pour le coup « L'avenir en miettes ». Dans le processus de désenchantement qui mène de 1944 à 1989, mai 68 intervient comme une brèche qui relance l'espérance, le prophétisme, le désir de révolution émancipatrice, observe l'historien des idées, qui cite les termes de Michel de Certeau, une rupture instauratrice, car en mai 68 on a pris la parole, comme en 1789 on a pris la Bastille, mais l'événement même réfléchi dans des ouvrages emblématiques comme l'Anti-Oedipe de Deleuze et Guattari, ou l'institution imaginaire de la société de Castoriadis, n'a pas fini de délivrer tout son sens, on peut le constater 50 ans après. Comme le disait encore Michel de Certeau, un événement est ce qu'il devient, et celui-là aura très profondément transformé la société française. L'un des traits marquants de cette évolution d'ensemble est l'attitude des intellectuels à l'égard de la démocratie. Après les lendemains qui déchantent, elle reste le socle de toutes les émancipations. C'est ce que montre le le parcours de Pierre Rosanvallon dans Notre histoire intellectuelle et politique 1968-2018, publié au Seuil, où il détaille les idées qui agitèrent la gauche après 68, en particulier l'autogestion dans l'entreprise. Mais, résume-t-il dans l'Obs, les idées autogestionnaires ont émergé dans la société des Trente Glorieuses finissantes. Elles étaient paradoxalement prématurées ou déjà dépassées, court-circuité par l'histoire objective du capitalisme.